Et Sarah a vite commencé à pester contre son manteau islamique et son foulard noir. Le golfe persique était une masse de brume blanchâtre, légèrement bleutée à la base. Bandar Abbas, une ville plate, qui se jetait sur une très longue plage, où un large môle en béton, très haut, s'enfonçait loin dans la mer. Nous sommes passés déposer nos bagages à l'hôtel, un bâtiment qui paraissait tout récent, ascenseur flambant neuf, peintures éclatantes, mais dont les chambres étaient, elles, totalement en ruine. Vieilles armoires défoncées, tapis élimés, dessus de lits mouchetés et brûlures de cigarettes, tables de nuit branlantes et lampes de chevet cabossées. Nous eûmes un peu plus tard le fin mot de l'histoire. L'hôtel se trouvait certes dans un bâtiment neuf, mais son contenu, le chantier ayant dû consumer entièrement l'argent de son propriétaire, avait été tout simplement déplacé tel quel de l'établissement antérieur et, nous apprit le réceptionniste, le mobilier avait en plus quelque peu souffert du déménagement. Sarah y vit immédiatement une magnifique métaphore de l'Iran contemporain. Nouvelle construction, même vieillerie. Moi j'aurais aimé un peu plus de confort, voire de beauté. Cette dernière qualité semblant totalement absente du centre-ville de Bandar Abbas. Il fallait beaucoup d'imagination, beaucoup, pour y retrouver le port antique où passa Alexandre le Grand en route pour le pays des ichthyophages, l'ancien Porto Comrao des Portugais, le débarcadère des marchandises des Indes, la cité portuaire reprise avec l'aide des Anglais, nommée Port Abbas en hommage à Shah Abbas, le souverain qui reconquit pour la Perse cette porte sur le détroit d'Ormuz, en même temps que l'île du même nom, mettant ainsi fin à la présence lusophone dans le golfe Persique. Les Portugais avaient appelé Bandar Abbas le port de la crevette. Et une fois nos bagages déposés dans nos horribles chambres, nous mîmes en quête d'un restaurant où déguster ces immenses crevettes blanches de l'océan Indien que nous voyons débarquer, toutes brillantes dans la glace, chez le poissonnier du bazar de Tajrich à Téhéran. Le chelo maigou, ragoût de ces décapodes nageurs, était effectivement délicieux. Entre-temps, Sarah avait enfilé un manteau islamique plus léger, de coton crème, et caché ses cheveux sous un foulard fleuri. La promenade au bord de l'eau nous confirma qu'il n'y avait rien à voir à Bandar Abbas, à part une enfilade d'immeubles plus ou moins modernes. Sur la plage, on apercevait ça et là des femmes en tenue traditionnelle, avec le masque de cuir décoré qui leur donnait un air assez inquiétant, monstrueux personnage d'un bal masqué morbide ou d'un roman d'Alexandre Dumas. Le bazar croulait sous les dattes de toutes sortes, de Bam ou de Kerman, des montagnes de dattes, séchées ou fraîches, noires ou claires, qui alternaient avec les pyramides rouges, jaunes et brunes de piment, de curcuma et de cumin. Au milieu de la jetée se trouvait le port de passagers. Un ponton qui s'avançait droit dans la mer sur une centaine de mètres. Le fond était sableux et en pente très douce. Les embarcations les plus volumineuses ne pouvaient s'approcher du bord. Le plus curieux étant que des embarcations volumineuses, il n'y en avait pas. Juste de petites vedettes, des canots automobiles assez étroits, équipés d'énormes moteurs hors bord, le même genre d'esquif que les gardiens de la Révolution, me semblait-il, utilisaient pendant la guerre pour attaquer pétroliers et cargos. Pour embarquer, il fallait donc descendre une échelle de métal depuis le ponton jusqu'au canot en contrebas. Le quai ne servait, en réalité, qu'à rassembler les passagers potentiels. Du moins, pour ceux qui souhaitaient, et ils n'étaient pas nombreux, se rendre dans l'île d'Ormuz. Les voyageurs pour Kish ou Khreshm, les deux grandes îles voisines, prenaient place sur des ferries confortables, ce qui me fit lâchement insinuer à Sarah « Tiens, pourquoi n'irions-nous pas plutôt à Khreshm ?» Elle ne prit même pas la peine de répondre et s'engagea, aidée par un marin, dans la descente de l'échelle vers la barcasse qui se balançait sur les flots 3 mètres en contrebas. Pour me donner du courage, je pensais au Lloyd autrichien, dont les fiers navires quittaient Trieste pour sillonner les mers du globe, et aussi aux dériveurs que j'avais une fois ou deux barrés sur le lac de